Bonjour à tous pour cette émission de l'association Sport et spécificité féminine. Nous en sommes à la deuxième émission. La première était une présentation d'Isabelle Reynaud sur cette association Sport et spécificité féminine. Aujourd'hui, deux invités dans ce studio de FM+, 91 FM à Montpellier. À mes côtés, Caroline Montel, kinésithérapeute. Bonjour Caroline Montel.
Bonjour Guylaine Dubois.
Et Rudy Wehrig, W. Wehrig ou Wehrig ?
Wehrig, c'est bien ça.
Wehrig.
Bonjour Guylaine, merci pour votre accueil.
Coach sportif et préparateur physique, tous les deux, vous travaillez pour l'association Sport et spécificité féminine. Je parle sous le contrôle d'Isabelle Reynaud quand même, je fais attention. Alors, aujourd'hui, après une émission générale, nous allons nous intéresser d'une façon beaucoup plus concrète avec Caroline Montel et Rudy Wehrig à cette condition sportive des femmes. Est-ce que je vous donne la parole d'abord, peut-être Caroline Montel, vous êtes kinésithérapeute, vous êtes approchée de l'association Sport et spécificité féminine, comment ?
Alors, je me suis intéressée à l'association Sport et spécificité féminine en faisant la connaissance d'Isabelle Reynaud au cours de formation que l'on fait chaque année pour nous perfectionner et puis pour prendre connaissance des nouvelles techniques. Et il est vrai qu'on avait connaissance d'un complément nécessaire aux séances de rééducation dans nos cabinets en libéral pour vraiment encadrer la femme dans sa vie quotidienne et également dans sa vie sportive, dans sa vie d'activité de loisirs, pour vraiment encadrer la femme, la corriger, lui apporter des conseils bénéfiques pour sa santé puisqu'elle souhaite entretenir sa santé, entretenir sa condition physique et donc se faire plaisir dans une activité sportive et de loisirs.
Alors, pour vous, Rudy Wehrig, arriver comme coach sportif et préparateur physique est peut-être moins incongru pour une association qui s'appelle Sport et spécificité féminine. Il y a vraiment une différence entre hommes et femmes ?
Absolument. C'est tout un travail, en fait, parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu qu'on s'est particulièrement attardé à des pratiques qui se sont reposées sur des recommandations justement masculines. Et du coup, on en a oublié toute cette particularité de l'anatomie féminine.
D'accord. Alors, vous intervenez-vous plutôt dans un contexte de cabinet ou vous intervenez plutôt dans un contexte plus généralement sur la pratique sportive féminine ? Comment est-ce que vous approchez cette dimension féminine du sport ?
Alors, cette dimension rentre dans une démarche d'adaptation de l'entraînement, notamment. J'ai un rôle de formateur dans l'association. Je suis également chargé de communication à visée de sensibilisation envers le public féminin et des professionnels également du sport, de la forme et même parfois de la santé qui sont pas au courant justement de ces pratiques préventives auprès du public féminin. Et je vais avoir également un rôle dans le fait d'être chargé de la labellisation et du suivi de la labellisation de certaines salles de sport, dans le fait de communiquer, d'informer au plus grand nombre et que les femmes puissent se décontracter dans la prise en charge justement de parfois des sujets qui peuvent paraître tabous.
Lorsqu'on est kinésithérapeute, en s'intéressant à la morphologie féminine, Caroline Montel, quelle est la zone corporelle sur laquelle vous travaillez le plus ?
Eh bien, chez les femmes, on va s'intéresser à particulièrement l'enceinte abdominale qui est mise en jeu dans toutes les activités de la vie quotidienne, de la vie sportive et de loisirs, puisqu'elle va recevoir des pressions, elle va recevoir des efforts et pourrait avoir un impact sur la vie périnéale de la femme. Donc, je vous explique, on ne voit plus les abdominaux de la même manière en deux dimensions, comme un dessin. On les voit vraiment en trois dimensions.
On voit, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, on voit ?
Alors, cela veut dire que maintenant, anatomiquement, on va vraiment décrire l'enceinte abdominale
Par rapport à autrefois, vous voulez
par
dire?
Par rapport à autrefois, où on voyait vraiment la culture du corps hein, par le dessin des abdominaux plaquettes de chocolat. Et maintenant, on va vraiment prendre en considération qu'à l'intérieur du ventre, il y a des organes. Il y a la vessie, il y a l'utérus, il y a le rectum, il y a aussi les organes abdominaux de la digestion. Et ils sont incompressibles, ceux-là. Donc, quand on va contracter nos abdominaux, on va se contracter sur les organes abdominaux et à l'intérieur du petit bassin. Donc, on va imaginer, par exemple, et assimiler cette enceinte abdominale à une cabine d'ascenseur. Nous-mêmes, quand on prend l'ascenseur, on sent qu'il y a des pressions. On sent que quand l'ascenseur il descend et qu'il s'arrête net, on sent qu'on pèse un petit peu plus lourd que notre poids. Et donc, quand on regarde tout autour de nous, la description, c'est des parois d'ascenseur. Si on assimile ça à la paroi abdominale, eh bien, les parois abdominales sont mobiles, donc vont venir se resserrer sur nous. Et si on regarde le plafond, c'est un plafond mobile aussi, c'est la respiration. Et si on regarde sous nos pieds, il va falloir un plancher assez résistant. Et donc, c'est notre sangle dynamique abdominale qui va devoir répondre à toutes les sollicitations, tous les efforts qui viennent en amont. Voilà pourquoi abdominaux et périnées sont très, très intimement liés.
Alors, quand vous prenez l'image à l'ascenseur, est-ce que vous prenez aussi les images des parois verticales?
On prend également les images des parois verticales.
Pour aller jusqu'au bout de la métaphore.
Qui sont effectivement les parois de la sangle abdominale. Donc vraiment la couche profonde, c'est le muscle transverse de l'abdomen qui a pour fonction uniquement de se resserrer sur lui-même. Et ça va être un travail que l'on va vraiment enseigner dans les cabinets de kinésithérapie et à travers l'association Sport SF. Pour que les femmes donc, en prennent conscience, adoptent cette sensation de serrage abdominal qui va nécessiter un travail postural pour le mettre en place, ce qui va mettre en place également le périnée et à un axe aussi respiratoire pour ne pas bloquer pousser aussi dans notre enceinte abdominale et sur notre périnée. Donc tout cet enseignement.
Alors, à la lumière de ce que vient de dire Caroline Montel, Rudy Wehrig, quels sont les sports que vous allez plutôt préconiser ou les pratiques ou les préparations physiques?
Alors, c'est très délicat de se positionner sur des sports à conseiller ou à recommander. Disons que ça va toujours être une question d'adaptation pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Caroline. On comprend que l'anatomie et la physiologie de la femme présentent des particularités qui aujourd'hui ont fait l'objet de plusieurs études. Il s'agit d'un sujet avéré, établi scientifiquement et rendu de plus en plus public. Et ça impose une approche différente pour être dans une pratique respectueuse et préventive du corps. Et c'est là-dessus qu'on va devoir se positionner. On va devoir avoir une approche différente dans l'adaptation de la pratique en fonction des spécificités morphologiques de chacune, de leurs antécédents, de leur cycle menstruel, de parfois leur statique globale, c'est-à-dire leur posture, et plein d'autres facteurs pour imaginer un petit peu cette idée de cycle menstruel. Les femmes, par exemple, elles ont une laxité et un jeu articulaire plus important que les hommes en raison en partie de l'imprégnation hormonale qui distend les ligaments et la capsule articulaire. C'est toute une physiologie différente qui doit demander une adaptation. Alors certes, dans la prise en charge du renforcement envers monsieur et madame tout le monde, mais envers un athlète de haut niveau, lorsqu'on accompagne un sportif, souvent on établit une programmation d'entraînement qui se fait en fonction d'un calendrier sportif. Pour la femme, je pense qu'il y a un travail à faire sur justement la corrélation avec ses cycles menstruels, puisqu'il va y avoir des conséquences dans cette laxité, par exemple. Hein, c'est un exemple parmi d'autres. Il va falloir être préventif à certaines périodes de l'entraînement, puisque la laxité étant plus importante, il y a un risque de blessure qui peut subvenir plus vite.
La physiologie, l'aspect médical est très important dans votre préparation au corps féminin pour le sport.
Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui m'a rapproché de l'association Sport SF. C'est le fait de me rapprocher auprès de professionnels de la santé parce qu'on n'a pas aujourd'hui une activité différentes, on a des activités complémentaires. C'est indispensable de travailler aux côtés des professionnels de la santé pour optimiser l'accompagnement et le suivi que ce soit d'un patient ou d'un athlète. Parce que effectivement, on va avoir les kinés qui vont avoir affaire, on dit souvent, à des patients donc qui présentent une problématique, alors que des sportifs, on va parler de clients ou d'athlètes. Et c'est là où il va falloir un dialogue fin pour assurer justement l'accompagnement du sportif.
Le sport, oui, mais pas sans kiné.
C'est un peu ça, tout à fait.
Votre passeport, s'il vous plaît.
Toujours ensemble avec l'association Sport SF, Caroline Montel et Rudy Wehrig pour évoquer les liens entre la pratique sportive, les conséquences sur le corps féminin. Nous sommes donc Caroline Montel, je voulais aussi vous interroger sur la question du périnée. Peut-être le gros mot, peut-être en kinésithérapie, je ne sais pas. On parle énormément maintenant du périnée, beaucoup plus qu'autrefois. Quel est le travail que vous préconisez en tant que kiné pour peut-être renforcer, améliorer, je ne sais pas. Dites-moi le vocabulaire qu'il faut utiliser pour cela.
Bah déjà, la femme, est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'elle a une perception de la contraction de son muscle? Et est-ce qu'elle a la conscience qu'elle est à l'aise dans toutes les situations de la vie quotidienne lorsqu'elle a une toux, un éternuement, lorsqu'elle rit, lorsqu'elle porte son enfant, ses courses, lorsqu'elle pratique un sport? Donc, pas mal de situations, même aussi la physiologie de la défécation et de la miction. On pose des questions, est-ce qu'elle a des préjugés qui sont un petit peu d'autrefois? Par exemple, on ne parle plus de stop pipi pour faire la mise en évidence de la contraction périnéale. C'est très mauvais, cela peut occasionner une infection urinaire. Donc on va discuter, interroger la femme sur ses prérequis et éventuellement corriger donc des mauvaises habitudes. Et ensuite on va passer à la phase de travail corporel où on va faire prendre conscience à la femme que le périnée respire, il bouge également. Puisque on parlait donc du plancher de l'ascenseur, eh bien il est juste en regard du plafond, donc ils vont bouger ensemble avec la respiration. Il sera favorisé aussi ce périnée par une meilleure posture, une correction aussi de la colonne vertébrale et du bassin, puisque le périnée c'est un ensemble de muscles qui vont s'insérer finalement tout en bas du bassin.
Ce sont quand même des muscles profonds.
Exactement.
C'est un apprentissage qui peut être long pour ressentir cette musculature-là.
Exactement. C'est un apprentissage qui va dépendre de la capacité qu'a la personne à intégrer certaines informations. Mais c'est à nous aussi d'être le plus ludique pour leur donner des images. Par exemple, le périnée, on peut imaginer qu'il est installé sur un bateau. C'est le bassin qui est un peu la coque de notre bateau. Et donc la colonne vertébrale, notre mât. Et donc forcément, on va faire voguer le bateau pour vraiment intégrer les muscles du périnée. Et donc il y a beaucoup d'images mentales qui existent. Là aussi, on peut reprendre les portes d'ascenseur qui se referment pour serrer le périnée. Et aussi, étant donné qu'il est très profond, on imagine que l'ascenseur est capable de monter et on ferme encore les portes d'ascenseur. Mais surtout, ce qui est important, c'est après cette prise de conscience, éventuellement un travail de réentraînement à l'effort de ce périnée, c'est de pouvoir vivre des situations concrètes, c'est-à-dire passer de la position allongée à assise, aller ramasser un objet au sol, et pouvoir intégrer aussi une pré-contraction périnéale qui ensuite va devenir un réflexe.
Le périnée, c'est aussi une zone qui est très sollicitée lorsqu'on accouche, lorsqu'on met au monde un enfant. Est-ce que c'est le seul moment où on va consulter une kiné pour la rééducation périnéale?
Mais la majeure partie du temps, effectivement, les femmes consultent, rencontrent leur périnée au moment d'attendre un enfant, donc durant la grossesse et après leur accouchement. Mais il est vrai qu'on a des femmes qui viennent également avec une pathologie installée, telle une incontinence urinaire ou une descente d'organes. Et c'est vrai quand on leur apprend toutes les corrections que l'on peut apporter, puisque effectivement c'est une réalité les pathologies périnéales, mais ce n'est pas une fatalité. On peut vraiment y apporter beaucoup de corrections et d'adaptations. Ces femmes nous disent « j'aurais pu le faire avant, puisque si on me l'avait dit, c'est vrai que je me serais corrigée avant ». Ces femmes, elles viennent avec des symptômes aussi au sport. Elles peuvent me dire, j'ai des bruits d'air vaginaux quand je fais un cours d'abdos fessiers, j'ai une fuite alors que je suis jeune et j'ai pas encore d'enfant. Donc c'est vrai que c'est important d'informer, de sensibiliser et de faire de la prévention le plus idéalement possible de ces femmes pour ne pas arriver à finalement venir nous voir en cabinet pour une prise en charge plus lourde. D'où aussi notre rapprochement avec les préparateurs physiques et les coachs sportifs, puisqu'ils voient beaucoup, ils rencontrent beaucoup ces femmes avant de telles prises en charge, avant de tels symptômes. Et notre association aussi nous a fait prendre conscience qu'ils font des bilans, tout comme les kinés ou dans le monde médical. Donc les coachs sportifs questionnent leurs sportifs avant de leur préparer un programme. Donc on met ensemble un petit peu tout... les points sur lesquels on aimerait sensibiliser aussi les sportifs. Il n'y a pas que les pathologies traumatisantes telles que les entorses, les tendinites. On peut se blesser aussi, on peut sentir également un inconfort au niveau périnéal, même si ce n'est pas une pathologie visible. Le coach sportif va poser la question un petit peu avec tact.
Un coach sportif, exactement. Oui, comme Rudy Wehring, mais tout le monde n'en est peut-être pas à ce niveau-là de connaissance dans ce milieu sportif. J'ai pas le sentiment qu'en m'étant inscrit dans une salle de sport, j'avais eu ce questionnaire ou ce souci de la part du coach sportif.
Absolument, c'est là où finalement on est dans une position un petit peu délicate, c'est que Caroline l'a appuyé, les femmes n'ont pas forcément connaissance de leur anatomie, ne perçoivent pas leur périnée. Il y a un autre aspect, c'est que il y a une méconnaissance de nombreux professionnels du sport, de la forme, du bien-être, qui n'ont pas connaissance de ces spécificités féminines et de ces particularités anatomiques. Ça me faisait penser tout à l'heure de rebondir sur un parallèle, notamment sur l'attitude à adopter lors de l'apparition de symptômes pelvipérinéales comme des incontinences urinaires. Ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on se blesse lors d'une activité sportive, imaginons qu'on se retrouve à avoir une entorse, que le médecin estime qu'il s'agit d'une grosse entorse, on va devoir se ménager, on va devoir arrêter sa pratique sportive durant un certain temps, on va devoir même aménager notre quotidien.
Immobiliser même parfois la cheville.
Voilà, absolument, c'est tout à fait ça. Eh bien, c'est exactement la même chose lorsqu'on est sujet à un muscle qui est traumatisé, déchiré. Ce périnée, par manque de tonicité, parfois il est même amnésié, il n'y a aucune sensation, va amener à différentes problématiques. Et en fonction du niveau de la problématique, il va y avoir une prise en charge auprès des professionnels de la santé. Et pour passer d'une rééducation à la prise en charge, on parle beaucoup, par exemple, chez les athlètes de haut niveau, de réathlétisation.
La rééducation. C'est-à-dire réathlétisation.
Alors, on va avoir la rééducation qui va être prise en charge par les professionnels de la santé, qui va permettre le rétablissement, on va dire, de la blessure. Et à ce moment-là, on ne va pas reprendre une activité du sportif comme elle l'était juste avant sa blessure. Il va falloir réathlétiser, c'est-à-dire le ramener à son plus haut niveau de manière progressive.
Reprendre un entraînement depuis le départ ou quelque chose de similaire?
Alors, tout à fait de manière progressive, le plus vite possible, parce que parfois le haut niveau coûte cher, mais tout ça de manière à éviter toute récidive. Et c'est là où il va falloir avoir un discours fin entre les kinés et les préparateurs, et surtout travailler de manière collaborative, complémentaire, mutualiser nos connaissances et nos compétences pour optimiser le suivi et l'accompagnement du public, de tout public d'ailleurs, que ce soit monsieur et madame tout le monde, ou encore des athlètes de haut niveau.
Les enquêtes que vous aviez évoquées tout à l'heure sur, je crois, des athlètes de haut niveau, justement, des athlètes femmes, que montrent-elles? Est-ce qu'il y a un périnée qui est vraiment complètement abîmé par une pratique sportive non respectueuse? Que disaient ces études précisément?
Alors les études, je crois qu'on avait travaillé un petit peu le sujet avec Caroline, qui pourrait peut-être rebondir après sur le sujet, mais c'est vrai que ce qui me vient notamment, c'est des mauvaises pratiques aujourd'hui qui sont rentrées dans les mœurs en quelque sorte. Je pense notamment à un exercice phare qu'on retrouve dans toutes les salles, c'est l'exercice du crunch, qui est un exercice de flexion du tronc en fait.
D'accord, donc on est allongé et puis il faut se relever.
Voilà, absolument.
Imaginez-vous, les genoux sont pliés ou allongés ?
Allongé au sol, sur le dos, tout à fait. Les genoux pliés à 90 degrés, les pieds à plat. Imaginez-vous chercher à faire une flexion du tronc.
Ça, c'est un entraînement classique d'abdominaux.
Absolument, totalement. Et toutes les variantes qui en découlent. Ça va être délétère sur plusieurs points. La première chose, sur la colonne vertébrale, qui n'est pas faite pour des flexions de tronc aussi importantes, qui va amener une dégénérescence des disques intravertébraux.
Ça, c'est valable pour les hommes et les femmes ?
Absolument, tout à fait. Et la deuxième problématique, elle en vient de là, et c'est là où Caroline a expliqué tout à l'heure l'anatomie de cette sangle abdominale et du transverse, dans le fait de gainer le corps, c'est que automatiquement cette flexion de tronc va engendrer des phénomènes d'hyperpression intra-abdominale à l'intérieur de l'abdomen, par le fait qu'on se retrouve dans, une zone qui est incompressible. Du coup, on va se retrouver avec des pressions sur l'avant et sur le bas, c'est-à-dire sur la sangle abdominale et sur le périnée, qui va engendrer un affaiblissement et des risques, évidemment, d'incontinence urinaire d'effort, notamment.
Caroline Montel, par rapport à ce que vient d'expliquer Rudy, comment est-ce que vous réagissez concrètement ? Une femme arrive, elle témoigne de cela, de cette mauvaise pratique. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller en premier lieu ?
Donc, en premier lieu, on va discuter avec la femme au sujet de son intensité d'entraînement et du sport, hein. À savoir à quelle fréquence elle s'entraîne, combien de temps elle s'entraîne, depuis aussi combien de temps, parce qu'avec les années aussi, ça peut nous donner une idée, et donc à quelle intensité elle va s'entraîner. Donc, on va l'accompagner sur les bons exercices d'entraînement et lui apprendre aussi à avoir un discernement sur ce qui amène des hyperpressions et ce qui est délétère. Puisque donc, tout sport, toute activité est dans le but de se faire du bien, a une conséquence sur le corps, mais mal conduit, cela peut avoir un effet néfaste. Donc on va vraiment revoir avec elle donc, toute la pratique. Et on va avoir donc un axe qui va être respiratoire pour éviter aussi la mauvaise conduite de la respiration, inspirer, bloquer, pousser, gonfler le ventre. Donc ça, on va lui dire que c'est pas bon.
On oublie les choses un peu spontanées, on va dire, en tout cas dans lesquelles on a été modelé.
Exactement, dans un premier temps, on peut amener à déconstruire tous les prérequis qu'on avait sur son propre corps.
Se déshabituer.
Voilà, se déshabituer dans un premier temps. Dans un deuxième temps, finalement, être plus attentif à son corps, plus à l'écoute de ses sensations et essayer de sentir si le geste est bien réalisé ou si on commence à avoir un échec technique, comme aussi pourrait en discuter Rudy, puisque c'est aussi son cheval de bataille depuis très longtemps.
Un échec technique
qui va ensuite amener à une position, une posture, un geste qui va être altéré. Et cela peut amener donc à une blessure. On peut l'imaginer qu'un geste mal conduit, on peut arriver au faux mouvement. Et ça, cela peut arriver déjà quand on n'a pas été suffisamment formé, quand on n'a pas forcément, on ne s'est pas entraîné avec, en ayant acquis ce savoir-faire, et pouvoir ensuite le transférer le plus possible dans son sport, dans toutes ses activités. Donc c'est un savoir-être aussi de bien réaliser ce geste technique au quotidien, des années en années, pour vraiment préserver son avenir périnéal. Puisque, voilà, on parle de, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que la femme ressent, et à l'avenir aussi, comment va se comporter sa vie de femme, en général.
Est-ce qu'il y a un moment où cette réparation, cette éducation n'est plus possible physiquement pour la femme ?
Effectivement, nous avons un capital génétique tissulaire, donc nous ne sommes pas toutes égales, nous les femmes, par rapport à un même sport. Par exemple, Juliette et Céline, 30 ans, pratiquent de la course à pied ensemble. Eh bien, une peut présenter une incontinence urinaire à l'effort, l'autre non. Oui, parce que la capacité de résistance tissulaire de son périnée et de tous les tissus aussi qui suspendent les organes pelviens, vessie, utérus, rectum, ils sont suspendus effectivement à l'intérieur de notre bassin par des ligaments. Donc on peut imaginer une petite corde de balançoire qui, avec les années, vécue au quotidien des sollicitations de pression, des impacts de la course, par exemple la course à pied, que cela peut occasionner sur le périnée et sur les organes, on imagine les conséquences sur le périnée et sur les suspensions ligamentaires. Donc effectivement, parfois, la femme présente une incontinence urinaire ou alors un organe qui est descendu, c'est-à-dire qui s'est déplacé au travers de l'orifice vaginal, puisque la différence entre l'homme et la femme, c'est bel et bien la présence donc, du vagin, qui est une zone de fragilité du périnée féminin. Et lorsque le capital tissulaire a été altéré, la mécanique de la kinésithérapie ou du sport ne pourra pas remonter les organes ou replacer une urètre qui est trop mobile. Voilà, le périnée, quand on contracte, à ce moment-là, la femme elle a une sensation de joindre robinet usé. Elle n'a pas la sensation de maîtriser son corps.
Est-ce qu'à ce moment-là, la chirurgie peut intervenir ou pas ?
Et c'est à ce moment-là où on conseille la femme de reprendre contact avec son médecin généraliste, puis son médecin spécialiste, qui sera à même de la conseiller sur l'indication d'une chirurgie qui est très efficace, très réparatrice. Donc il y a vraiment beaucoup de solutions aujourd'hui pour traiter les problèmes périnéaux.
Au tout début de cette émission, nous avons bien sûr évoqué le cadre dans lequel nous faisons cette émission, l'association Sport SF. Vous êtes combien de kinésithérapeutes, je m'adresse à vous Rudy, de coachs sportifs, de préparateurs physiques à travailler dans ce sens-là, en collaboration étroite avec une kiné, en collaboration étroite avec une association qui est attentive à ces aspects-là. J'ai l'impression que vous êtes encore rare à ce... Une réalité ou juste une vue de l'esprit ?
Tout à fait. Mais une fois de plus, c'est ce qui m'a fait venir auprès de l'association. J'ai remarqué, enfin aujourd'hui, dans de nombreux métiers, le problème des indépendants de leur côté qui veulent amener leur service. À la base, je suis indépendant en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine. Et on ne peut pas être plus performant, avoir un accompagnement de qualité si à un moment donné on se contente qu'à soi-même. Une pratique quand on est dans une démarche où on intervient sur le corps, comme le disait Caroline, si elle est mal conduite, elle va être délétère. Si elle est bien conduite, adéquate et adaptée, elle va permettre un bien-être, un entretien et une longévité, une préservation de son capital santé.
Ce que vous êtes en train de dire, me semble-t-il aussi, c'est qu'on appuie sur un endroit du corps, ça va avoir des conséquences autour.
Absolument.
Faire travailler des abdos, ce n'est pas forcément que les abdos, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez démontré, c'est un impact ailleurs.
Tout à fait, il y a énormément d'idées reçues d'ailleurs sur le sujet, et je pense effectivement qu'il faut aller dans le sens... Il y a un petit peu une bagarre en fait sur le terrain, j'ai l'impression, entre... les kinés et les préparateurs physiques, j'ai eu l'occasion d'en parler avec de nombreuses personnes et c'est là où est toute la problématique parce qu'on a tellement des activités qui se rejoignent mais pourtant différentes et tellement complémentaires que finalement on se retrouve dans une bagarre sur le terrain à dire le kiné il a envie de faire ma partie athlétisation, le préparateur physique, il fait la partie prévention et il veut gérer tout cet aspect.
C'est une histoire de précaré, on a l'impression que chacun veut aller dans le précaré de l'autre.
Voilà, il n'y a pas de
coordination,
il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de travail ensemble. Et une fois de plus, je pense que c'est dommage parce que du coup, on n'accorde pas l'importance qu'on doit apporter à la personne qui est concernée, c'est-à-dire le patient, le client, parce que du même sens, quelqu'un qui va avoir des symptômes et qui va devoir passer auprès d'un professionnel de la santé, il va falloir... le mettre dans une dynamique de transférer ce savoir dans ses gestes au quotidien, dans sa pratique sportive. Et c'est important aussi d'aller dans ce sens-là. Parce que souvent, on voit que dans le sens, l'athlète est pris en charge par un préparateur, il va se blesser, on va le mettre chez les kinés. Mais en fait, voilà, chez les kinés, médecins et bien sûr tous les professionnels de la santé.
Il faut une vraie transition entre ces deux métiers.
Une vraie collaboration, ouais. Voilà, et un dialogue fin. C'est là où c'est compliqué aussi, parce qu'on a un dialogue différent dans nos activités respectives.
Dialogue différent, ça veut dire vocabulaire différent, ça veut dire perspective différente.
Ouais, vocabulaire, vision, c'est comme si on avait un langage différent. Les kinés parlaient français, pour ne pas dire l'inverse, et nous chinois, ou inversement. Et c'est compliqué du coup d'arriver à se comprendre. Et du coup, de créer un partenariat. Et donc, l'objet de l'association aussi, c'est qu'auprès des professionnels du sport, de faire comprendre ce dialogue et de pouvoir justement sensibiliser, informer et qu'il puisse y avoir enfin une adaptation envers le public féminin.
Eh bien, écoutez, je crois que vous avez donné les mots de la conclusion. Il me semble, Rudy, à moins que Caroline Montel, vous voudriez ajouter une information complémentaire?
Eh bien, effectivement, Rudy donc, va s'intéresser au monde des coachs sportifs. Et donc, avec Rudy et avec Isabelle Reynaud, donc collègue kinésithérapeute, et avec nos collègues médecins sexologues, médecins gynécologues,
médecins, nous aurons l'occasion de recevoir.
Exactement, voilà, sûrement que vous pourrez les recevoir et aborder donc beaucoup d'autres thèmes dans d'autres émissions. Donc nous sommes déjà opérationnels pour répondre aux questions des femmes sur le site de l'association.
On peut peut-être te redonner l'adresse du site.
Oui, www.sport au singulier.
Au singulier, ne pas oublier, c'est le sport dans sa généralité.
Le sport, le tiret, la lettre S, F, spécificitéféminine.com. Également, vous avez donc tous les renseignements et les inscriptions pour les ateliers bénéfices santé, soit donc en solo, soit en duo, si on veut avoir une prise en charge vraiment personnalisée.
Donc des ateliers organisés par l'association.
Organisés par l'association.
Pour, sur quelle ville, Montpellier ou ailleurs?
Alors pour commencer, effectivement, Montpellier, dans la salle R Révolution Santé, située dans le quartier Odysseum à Montpellier. À partir du mois d'avril, il commence à y avoir. Nous allons continuer en tout cas les formations auprès des particuliers. Et donc voilà, on continuera à faire des formations également sur Paris. Et voilà, on continuera également à se faire connaître pour pouvoir informer et faire cette prévention auprès du public féminin le plus possible.
Bien, merci vraiment, merci à tous les deux, Caroline Montel, kinésithérapeute, Rudy Wehring, préparateur sportif et coach sportif, préparateur physique et coach sportif, d'avoir animé cette deuxième émission de l'association Sport SF que nous avons vraiment un grand plaisir d'accueillir sur FM+, 91 FM à Montpellier. Au revoir.
Merci également, Guylaine.
Au revoir, merci Guylaine.